Si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à prendre votre Bible entre vos mains. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, vous avez sûrement reçu une feuille à la porte. C'est marqué « Marcher dans la plénitude de Dieu » numéro 4. Si vous n'avez pas une feuille, mais vous aimeriez en avoir une, juste levez la main et on va vous distribuer une. Mais on va faire cette déclaration de la foi et on veut penser à qu'est-ce qu'on dit. Et croire qu'est-ce qu'on dit. Parce que la parole nous enseigne que ce qu'on dit avec la bouche et ce qu'on croit avec le cœur s'accomplit. Hein? Donc, c'est pas juste les paroles dans l'air, mais on fait ceci pour une raison. Parce qu'on y croit. Donc, on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole inspirée de Dieu. C'est une semence qui va porter du fruit. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai changé de gloire en gloire. Dans l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Marcher dans la plénitude de Dieu. Il y a déjà un mois, on a commencé cette série. Et notre texte clé était, est encore aujourd'hui, Éphésiens chapitre 3. Et on va lire ceci ensemble. J'aimerais juste vous inviter à regarder dans vos notes ou d'ouvrir votre Bible à Éphésiens chapitre 3. Et on va lire ces paroles inspirées de Dieu. Que l'apôtre Paul a écrit à l'Église en Éphèse, il y a presque 2000 ans. Mais ces paroles qui ont été écrites il y a presque 2000 ans sont encore bonnes pour nous aujourd'hui. Et il faut que vous sachiez que quand la Bible, surtout dans les Épîtres, parle, que ça parle à nous. Comme on a dit la semaine passée, hein, Jésus avait besoin de fouiller, de chercher dans les Écritures, dans les psaumes, dans les prophètes, dans la loi de Moïse, les endroits où les choses ont été écrites à propos de lui-même. Que nous aussi, on a besoin d'aller fouiller dans la Bible et trouver les endroits où Dieu parle de nous. On a dit la semaine passée que Dieu a écrit un best-seller et dans le best-seller, il a parlé de vous. Hein, il y a pas juste, toutes les Écritures sont pour vous, mais il y en a qui sont à propos de vous aussi. Chaque verset qui parle de l'Église et des enfants de Dieu et de ceux qui sont en Jésus-Christ, chaque verset qui parle de qui vous êtes, ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez faire en Jésus-Christ, ça parle de vous. C'est spécifiquement pour vous. Et que c'est merveilleux de découvrir cela. Mais ici, en Éphésiens chapitre 3, verset 14, on lit ceci. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. » Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient être puissamment fortifiés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent faibles aujourd'hui? Si vous vous ressentez faible, si vous ressentez la faiblesse dans votre vie, le message est pour vous. Ou même si dans votre vie aujourd'hui, ça va bien, vous ne ressentez pas la faiblesse, c'est encore pour vous parce qu'on peut tous faire du progrès et devenir de plus en plus fort en Jésus, n'est-ce pas? Mais il dit ceci, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, quand Dieu vous fortifie, c'est sûr qu'il peut fortifier votre corps. C'est sûr qu'il peut fortifier votre âme. Mais l'endroit principal, là où le Seigneur veut vous fortifier, avant toute autre chose, c'est dans l'homme intérieur. Et juste ça, c'est une révélation pour certaines personnes. Ils ne savent pas qu'il y a un homme intérieur. Tout ce qu'ils comprennent, c'est qu'ils sont les êtres humains, qu'ils ont un corps physique, et des fois ils savent qu'ils sont une âme, ils ont une capacité mentale et émotionnelle, mais ils ne savent pas qu'ils sont créés à l'image de Dieu, et Dieu est esprit. Et si Dieu est un esprit, nous sommes les esprits aussi. Je suis un esprit, je possède une âme, c'est-à-dire mon intelligence, mes émotions, ma volonté, et j'habite dans un corps. Mais quand l'Esprit Saint me fortifie, il me fortifie dans l'homme intérieur, dans mon esprit, je deviens fort. Amen. et dit ceci, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, c'est-à-dire l'amour sur quatre dimensions, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu veut que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est grand? Il est énorme. Il est tout puissant. Il n'y a absolument rien que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a absolument rien que Dieu ne sait pas. On a une tendance à dire, oh, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais Dieu sait quoi faire. Peu importe votre situation, peu importe votre problème, Dieu a toujours une solution, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'aujourd'hui, sur la terre, pas au ciel, mais aujourd'hui, qu'on soit tellement rempli de Dieu, qu'on soit tellement enraciné dans son amour en quatre dimensions, qu'on est capable de comprendre avec tous les saints même son amour. Et à ce moment-là, on va être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, la volonté de Dieu pour vous et pour moi, c'est d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais ce qu'on sait, si on est honnête, c'est que la plupart de nous ici ce matin, nous ne sommes pas encore remplis jusqu'à toute la plénitude. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je sais que j'ai encore de route à faire avec le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent faire un peu de route avec moi? On va croire que même aujourd'hui, on va cheminer davantage et on va voir davantage, on va voir plus clair. Et quand nous quittons l'Église aujourd'hui, on va être plus avancé qu'à notre arrivée, n'est-ce pas? On va comprendre les choses de Dieu qu'on n'a pas compris avant de venir. On va comprendre les choses concernant soi-même qu'on n'a pas compris avant d'arriver. Donc là, on voit que Dieu est bon et Dieu est grand. Il veut qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que pour qu'on puisse vraiment être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, il y a un certain élément essentiel. Et ça, c'est la révélation. Comment on dit la révélation? Vous savez c'est quoi la révélation? Quand on a une révélation, on voit une chose qu'on n'a pas vue avant. La chose existait avant, mais on ignorait l'existence. Je m'en souviens une fois, quand nous étions à l'école secondaire à La Poudrière, le dimanche matin, parce que pendant 2 ans, presque 3 ans, on faisait des réunions là-bas. Et je m'en souviens, il y avait une fois, un dimanche matin, où j'ai caché, je pense que c'était un billet de 10 $ en dessous d'un siège, dans l'auditoire. Et est-ce qu'il y a des gens qui s'en souviennent de cela? Hein? Et ce matin-là, les gens sont venus, ils se sont assis, on faisait la louange et l'adoration et tout. Et pendant le message, j'ai dit que regardez en arrière de votre siège parce qu'il y a quelqu'un ici ce matin, vous avez une petite surprise. Il y a un billet de 10 $ caché en dessous de votre siège. Donc la personne a regardé, a trouvé 10 $. Il a eu une révélation. Quand j'ai dit, il y a un billet de 10 $ sous une des sièges ici aujourd'hui, c'était une révélation. Le billet de 10 $ était là avant le commencement de la réunion. Et la personne était assise sur 10 $ tout au long de la louange ou de l'adoration et les annonces. Et ça se peut que la personne, je ne sais pas, j'ignore, je ne m'en souviens plus de... C'est qui a eu ce 10 $, mais ça se peut bien que la personne était même en train de dire, tu sais, ça me tenterait vraiment d'aller après l'église aujourd'hui et prendre un repas avec quelqu'un, de manger une bonne poutine avec un frère, une sœur dans le Seigneur, mais j'ai pas des sous pour ça, hein? Je ne sais pas, il se peut. Et ça, c'est vraiment une belle illustration de la vie chrétienne. On est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et la plupart des gens ne savent même pas. Qu'est-ce qui nous appartient à Jésus? Qu'est-ce que Jésus a déjà fait pour nous? Il ne sait pas, comme on a dit l'autre jour, hein, que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Combien de vous savez que, et vous croyez que Jésus-Christ habite dans votre cœur? S'il habite dans votre cœur, c'est-à-dire qu'il a déménagé parce qu'il n'habitait pas dans votre cœur avant que vous avez fait une prière de repentance et avant d'avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dès que vous avez dit « Seigneur, je t'accepte, je confesse que tu es mon Seigneur, mon Maître, je veux vivre pour toi. » Et tu as confessé Jésus comme Seigneur, tu as cru dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dès que tu as prié cette prière, Jésus-Christ a déménagé. Et il a fait sa demeure dans votre cœur. Et quand il est arrivé avec toute sa nature, tout son caractère, tout son stock même, hein? Quand on déménage, on vient avec un camion et on prend notre stock et on le met dans la nouvelle demeure, n'est-ce pas? Et quand Jésus a déménagé pour demeurer dans votre cœur, il est arrivé avec tout son stock. Mais ça se peut que la plupart de vous ce matin, vous ignorez qu'est-ce qui était dans le truck. Vous savez pas qu'est-ce que Jésus a transporté. En fait, il vous a transporté, la Bible dit. Hein? Il vous a délivré du royaume des ténèbres. Il vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et Jésus a fait sa demeure dans votre cœur. Et il y a des choses dans votre cœur, comme le billet de 10$ qui était sous la chaise. La personne ignorée ne savait même pas qu'il était 10$ plus riche. La révélation n'a pas... C'est pas quand il a eu la révélation que le 10$ est apparu. C'est quand il a eu la révélation qu'il s'est rendu compte de qu'est-ce que le pasteur avait déjà fait avant le commencement de la réunion. Et quand vous allez avoir une révélation de qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie, c'est pas à ce moment-là que Jésus va apparaître dans votre cœur ou que les bénédictions spirituelles vont tout d'un coup arriver. Non, vous allez juste vous rendre compte de qu'est-ce que Jésus a fait avant le commencement du monde même, en déclarant que Jésus était l'agneau immolé avant la fondation du monde. Et l'héritage qu'il a prévu pour vous, et la raison d'être qu'il vous a donné, et l'appel qu'il avait sur votre vie avant le commencement du monde. Amen. Mais vous avez besoin de cette révélation parce que la personne aurait pu venir s'asseoir sur 10$, et si j'aurais jamais, pendant la réunion, si j'aurais jamais pris le temps de dire, il y a un billet de 10$ caché sous une chaise ici dans l'auditoire, si j'aurais jamais pris le temps de dire cela, la personne aurait pu quitter sans jamais profiter de ce 10$. Et aujourd'hui, si vous écoutez comme il faut, pas juste le pasteur, mais l'Esprit Saint qui est sur le pasteur et l'onction de Dieu qui veut vous enseigner. Vous allez pouvoir quitter aujourd'hui plus riche dans votre pensée. Pas plus riche dans votre esprit parce que c'est déjà là. Plus riche dans votre expérience chrétienne. C'est-à-dire votre vie de tous les jours va manifester la réalité de qu'est-ce que Jésus a déjà fait et préparé avant le commencement du monde pour vous. Mais si vous n'écoutez pas ou si vous n'entendez pas, si vous ne voyez pas, vous allez quitter aujourd'hui et le 10$ reste ici. Et les biens spirituels que vous portez dans votre cœur vont rester dans les ténèbres. Et vous allez ignorer toutes les bontés que Dieu a et toutes les bénédictions que Dieu a planifiées pour vous. Combien de vous voulez avoir une révélation ce matin? Donc, première chose qu'on va voir dans vos notes, c'est que Dieu veut révéler sa plénitude à son peuple. Il y a des gens qui disent ou qui pensent que Dieu est un Dieu tellement mystérieux qu'on ne peut jamais vraiment connaître Dieu. Il y a des gens qui pensent que... Combien de vous avez entendu les gens dire, « Oh, mais tu sais, on ne sait jamais. On ne sait jamais. » On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et ça, c'est tellement, tellement dommage d'entendre les chrétiens dire, mais tu sais, on ne sait jamais. On ne sait jamais qu'est-ce que Dieu va faire. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais ça, ce n'est pas biblique de dire, on ne sait jamais. La parole de Dieu est claire que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu qui aime entretenir les relations avec son peuple, et Dieu est un Dieu qui veut nous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer dans le futur. C'est un Dieu qui aime révéler sa plénitude à son peuple. Regardons, on a plusieurs versets ici. Amos 3:7 dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. » Que c'est bon ça, hein? Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé, voilà, on parle de la révélation, n'est-ce pas? Son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien sans communiquer son plan avec les êtres humains. Vous voyez, encore, le problème, c'est que souvent, on a cette image, Dieu est là, il est tellement haut et élevé, et nous, les êtres humains, nous sommes peut-être un peu plus élevés que les vers de terre, mais pas beaucoup. Hein? Et même dans nos pensées, comme je dis la semaine passée, on a Dieu qui est ici, puis on a les anges de Dieu qui sont tellement puissants et glorieux, et nous, les êtres humains, les vils pécheurs qui ne vaut rien. Mais aux yeux de Dieu, c'est tout le contraire. Dieu nous a créés dans son image, à sa ressemblance. Et c'est vrai que l'homme a chuté. C'est vrai que l'homme est devenu pécheur. C'est vrai que l'homme était privé de la gloire de Dieu. Mais c'est vrai aussi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est vrai aussi qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres et qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et c'est vrai aussi que nous sommes maintenant la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et que quand Dieu nous voit en Jésus, nous sommes aussi justes que Jésus-Christ lui-même. Et que même les anges, ils désirent plonger leur regard et voir et comprendre notre salut. Ils ne comprennent pas comment le Créateur peut se lier éternellement avec sa propre création et devenir une seule plante avec lui. Et si vous ne connaissez pas Jésus, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour vous. Il n'y a aucune espérance pour vous, à moins d'accepter Jésus et devenir une seule plante avec lui. Mais dès que vous acceptez Jésus, sachez, il faut que vous ayez cette révélation que vous n'êtes plus un ver de terre, vous n'êtes plus un pécheur, mais vous êtes la justice de Dieu en Jésus. Et quand vous êtes justifié, on ne peut pas être justifié à 25% ou 50% ou 75%. Soit on est juste ou on n'est pas juste. Soit on est à 100% juste en Jésus-Christ, aussi juste que Jésus, ou on n'est pas juste du tout. Et la justice est un don de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu veut révéler sa plénitude à son peuple. Genèse 18, 17, hein, vous savez que quand Dieu a pris une décision de juger les villes de Sodome et Gomorre et détruire ces villes, alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Dieu a dit non, je vais révéler à Abraham, parce qu'Abraham c'est mon ami, je connais Abraham, il me connaît aussi. Jean 15:15, Jésus-Christ a dit ceci, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. » Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez, Dieu veut nous faire connaître toutes choses à propos de lui. En Corinthiens, chapitre 2, verset 9, « Combien de vous avez entendu ce verset? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Point. L'oreille n'a jamais entendu. L'œil n'a jamais vu. C'est jamais monté dans le cœur de l'homme qu'est-ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et on entend beaucoup de sermons religieux basés sur ces versets-là. Tu sais, Dieu est un Dieu mystérieux. Et quand il travaille dans des façons mystérieuses. Et on ne sait pas, on ne peut même pas imaginer toutes les choses que Dieu a préparées pour nous. Combien de vous avez entendu les messages comme ça? Combien de vous avez entendu un message basé sur le 10e verset de ce passage? Le 10e verset. Oui, merci. Le 10e verset. dit ceci. Voici, Dieu nous les a révélés. Est-ce que vous avez entendu cela? Quand est-ce que Dieu va révéler ces choses? Il nous a révélé ces choses par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que toutes ces choses que Dieu a préparées, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, toutes ces choses, le Seigneur veut et nous a révélées par l'Esprit Saint. C'est-à-dire que vous pouvez savoir qu'est-ce que Dieu a préparé pour vous. Donc, quand vous dites, on ne sait pas, on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais, ça c'est un mensonge de l'ennemi. On sait qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous. Et on peut savoir de plus en plus, on peut avoir de plus en plus de lumière. Amen? Et il faut demander. Et Dieu n'est pas fâché quand on a une attitude de vouloir voir qu'est-ce qu'il a préparé pour nous. Je pense à Moïse, qui en Exode 33 a demandé, il a dit même à Dieu, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Est-ce que l'Éternel a fait une reproche? « Oh, mais personne ne peut voir ma gloire. Comment est-ce que tu peux oser demander de voir ma gloire? » Non, Dieu voulait se révéler à Moïse. Dieu savait, par exemple, que Moïse n'était même pas un homme né de nouveau. Il était dans l'ancienne alliance, que Moïse ne pouvait pas voir son visage parce que, hein, comme c'est marqué dans la parole, aucun homme peut voir le visage de Dieu et vivre. On parle d'un homme qui n'est pas né de nouveau, on parle d'un homme qui n'est pas dans un corps glorifié. Un être humain ne peut pas voir le visage de Dieu dans un état de pécheur et vivre. Vous êtes d'accord? Et c'est pourquoi même la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il faut qu'on soit né de nouveau, il faut qu'on soit glorifié avant de pouvoir voir la plénitude de sa gloire face à face avec le Seigneur. Mais, quand même, qu'est-ce que Dieu a dit? L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Donc voilà, Moïse, il est face à face avec sa destinée. Dieu lui dit qu'il faut délivrer le peuple d'Israël d'Égypte, qui est le pays le plus puissant sur la terre à l'époque. Et tu peux imaginer que Moïse est un peu intimidé par cette mission. Et c'est pourquoi il demande à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Il avait besoin d'une révélation de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, « Bon, je vais te faire passer devant toi ma bonté. Dieu est bon et Dieu est amour, n'est-ce pas? Et je vais proclamer mon nom devant toi. » Mais pour accomplir cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Moïse et il l'a caché quelque part. Où? Dans la fissure d'un rocher. Et vous savez que dans les Épîtres, en 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit que les enfants d'Israël furent suivis dans le désert par un rocher, n'est-ce pas? Et le rocher était quoi? Le rocher était Christ. Donc tu vois qu'il y avait un rocher fendu et que Dieu a placé Moïse dans le rocher et c'est seulement quand il était dans le rocher qu'il était capable d'avoir une révélation. Et de la même façon, Dieu nous a, hein, il a dû envoyer son Fils qui fut brisé pour nous, et il a placé son corps, ses enfants, dans le rocher de Jésus-Christ. Et c'est seulement quand nous sommes en Jésus-Christ que nous pouvons avoir une révélation de Dieu, de sa bonté et de sa gloire. Hein? C'est comme quand on va avoir un rayon X même. Hein? C'est intéressant, n'est-ce pas? Les médecins vont se cacher en arrière de quelque chose où ils vont mettre les choses faites avec la plombe pour protéger contre les rayons X, parce qu'ils savent que trop de rayons X, ça peut endommager encore. Mais c'est la même chose. La puissance de Dieu, la lumière de Dieu, Moïse avait besoin d'être caché dans le rocher afin de pouvoir vivre. Personne ne peut se tenir dans la présence de Dieu sans être dans le rocher. C'est pourquoi pour aller au ciel, il faut être en Jésus-Christ. Mais une fois qu'on est en Jésus-Christ, on devient une seule plante avec lui. Mais c'est intéressant parce qu'on voit que Moïse avait toute une révélation de Dieu. Il a vu Dieu. Il n'a pas vu son visage, il a vu son dos. Et juste en voyant le dos de Dieu, la gloire et la bonté de Dieu, Moïse était capable d'écrire au commencement, Genèse chapitre 1:1, Moïse a expliqué et décrit à la lettre le processus de la création. Il n'était même pas présent à la création, mais il avait tellement une révélation de Dieu et de ses moyens et de qu'est-ce que Dieu a fait parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Quelque chose, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est que Moïse n'était même pas né de nouveau. Mais nous sommes nés de nouveau. Et nous ne sommes pas juste dans le rocher, mais le rocher est en nous. Amen. On a besoin de cette révélation. Regardons, Éphésiens chapitre 1. Qu'est-ce que Paul a prié? Éphésiens chapitre 1, verset 15. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de quoi? Révélation. Dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. La plénitude, comment on dit la plénitude? De celui qui remplit tout en tous. Donc on voit ici, il prie pour qui? Il prie pour les chrétiens, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Ce sont des gens qui connaissent déjà le Seigneur. Ce sont des personnes qui ne sont pas juste nées de nouveau, mais baptisées du Saint-Esprit sûrement aussi. Parce qu'on sait que même en Actes chapitre 19, quand l'apôtre Paul est allé, il a trouvé 12 disciples à Éphèse, et il a imposé les mains sur eux, ils furent remplis du Saint-Esprit, et ils commençaient à parler en autre langue et de prophétiser. Donc on sait que c'est une église qui croyait à cela et qui pratiquait cela. Éphésiens 5 dit, soyez constamment remplis de l'Esprit Saint. Donc on parle des hommes et des femmes qui connaissent Jésus-Christ, qui sont remplis du Saint-Esprit, mais Paul prie quand même pour eux. Afin que le Père leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pourquoi est-ce qu'il priait pour cela? Parce qu'il disait, j'écris une lettre et j'ai encore de place sur mon parchemin, je peux juste remplir ce blanc-là et, Ou est-ce que c'est parce qu'il savait que s'il ne priait pas, que cet esprit de sagesse et de révélation ne serait pas donné? Vous savez, il y a certaines choses que, même si c'est la volonté de Dieu ne s'accomplit pas automatiquement. Ça prend la coopération de quelqu'un ici sur la terre. Quelqu'un a besoin de demander dans la prière. Et Paul savait que s'il ne prendrait pas le temps de demander, Seigneur, donne-leur un esprit de sagesse, donne-leur un esprit de révélation dans ta connaissance, illumine les yeux de leur cœur. Vous savez que votre cœur, votre homme intérieur a des yeux. Hein? Vous avez des yeux ici, mais vous avez aussi des yeux là. Tout le monde dit, j'ai quatre yeux. Hein? Et les yeux de votre cœur sont les yeux les plus importants. Et vous avez besoin d'être rempli et recevoir un esprit de sagesse et de révélation. Et il faut que vos yeux spirituels soient illuminés. Vous pouvez avoir des bons yeux, mais si vous êtes dans une pièce qui est complètement fermée, il n'y a aucune fenêtre, aucune porte et aucune lumière, la pièce peut être vide et vous ne serez pas au courant. Ou la pièce pourrait être remplie de trésors et vous ne saurez même pas. Est-ce que c'est vrai ou non? Et on pourrait dire que votre cœur est rempli de trésors, mais si les yeux de votre cœur sont fermés ou il manque de lumière, vous ne voyez pas qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Et c'est pourquoi il faut demander, Seigneur, donne à chaque membre de l'Église, c'est une prière pour vous-même à tous les jours, Seigneur, sagesse et donne-moi un esprit de révélation dans ta connaissance, illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse te connaître, Seigneur. Et si vous ne le faites pas, il est fort probable que vous allez passer toute votre vie chrétienne dans les ténèbres. Vous serez sauvés, vous serez capables d'aller au ciel, mais ici sur la terre, vous allez manquer le meilleur, vous n'allez pas accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Vous avez besoin d'un esprit de sagesse et de révélation. Ce n'est pas pour rien que c'est dans la Bible. C'est là parce que c'est une prière que Paul avait besoin de prier, et si Paul avait besoin de prier cette prière, nous avons besoin de prier cette prière aussi. Pour qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, il faut avoir un esprit de sagesse et de révélation. Et la révélation va être dans trois domaines. Regarde bien, c'est dans vos notes. Premièrement, Dieu va vous révéler l'espérance de son appel. Savez-vous que vous avez un appel sur votre vie? Tout le monde dit, je suis appelé de Dieu. Vous avez un appel sur votre vie. Ah, mais je pensais que c'était juste les pasteurs, les prédicateurs qui étaient appelés de Dieu. Non, tout le monde est appelé de Dieu. Mon appel est différent que votre appel. Mais vous avez un appel. Jérémie était appelé à être prophète. C'est dans vos notes que j'ai mis ce verset. Jérémie 1, 4 dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je te formais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fus sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Avant le commencement de l'assemblée, j'ai caché 10 dollars sous la chaise. Mais la personne ignorait. Avant que Dieu a dit que la lumière soit, Dieu te connaissait. Pas moi le pasteur seulement, mais vous. Chacun de vous, vous êtes aussi important que n'importe qui dans le monde. Regarde votre voisin et dis, tu es aussi important que n'importe qui sur la planète. Maintenant, regarde la personne à l'autre côté et dis, je suis aussi important que n'importe qui sur la planète. Dieu a un appel sur votre vie. Mais la question, est-ce que vous allez répondre? Je sais, on a des choses affichées là, fermez vos cellulaires. On ne veut pas avoir les cellulaires qui vont sonner. Ici, pendant l'église, on déteste ça, hein, quand on est dans une place publique. Mais savez-vous, l'appel de Dieu, c'est une autre chose. L'appel de Dieu est là. Mais vous savez que quelqu'un peut être ici ce matin et en espérant qu'ils ont suivi les consignes, ils ont fermé leur téléphone cellulaire. On peut avoir 10 ou 15 personnes essayer d'appeler cette personne, mais aussi longtemps que le téléphone est fermé, ils ne vont pas savoir. Hein? La bonique que vous tentez de rejoindre est actuellement pas disponible. Je ne sais pas, hein? Quel message vous avez, hein? Mais on ne veut pas que ce soit notre témoignage. Dieu nous appelle. Il essaie de nous révéler son appel. Et tout ce que Dieu entend, c'est que la bonique que vous tentez de rejoindre. Veuillez essayer plus tard. Mais ça fait, pour quelques-uns de vous, ça fait des années que vous avez gardé votre téléphone fermé. C'est le temps de l'ouvrir. C'est le temps de dire, « OK, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Montre-moi c'est quoi mon appel. Tu m'as appelé à faire quoi? » Faites pas l'erreur de vous comparer avec les autres. Faites pas l'erreur de penser que, « Oh, mais Dieu va m'appeler à faire quelque chose que je ne veux pas faire. » Je ne veux pas ouvrir mon téléphone parce que j'ai peur. Non, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et la réalité, c'est que vous ne serez jamais heureux, jamais satisfait avant d'avoir fait la volonté de Dieu pour votre vie. Et faites pas l'erreur, comme je dis, de penser que, oh, l'appel de Dieu, ça veut dire que je vais faire quelque chose comme
Je vais être pasteur ou dans le ministère à temps plein. Oui, vous serez dans le ministère à temps plein. Mais laisse-moi vous dire, moi j'avais un projet, étant jeune, d'être journaliste et historien. Ça, c'était mon projet. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, et j'étais en feu pour le Seigneur Jésus, la dernière chose dans ma pensée, c'était d'être pasteur ou prédicateur. C'était même pas une idée dans ma tête. Et les gens voyaient le feu dans mon cœur, ils voyaient jusqu'à quel point je témoignais et j'étais en feu pour Jésus. Ils disaient, « Mais toi, est-ce que tu veux être dans le ministère ou quelque chose? » Je dis, « Oui, je pense que tous les chrétiens devraient être dans le ministère. » À temps plein. Amen. Mais moi, mon idée, c'était d'être dans le ministère comme journaliste à temps plein et juste travailler pour le Seigneur. Mais le Seigneur avait un autre plan. Mais laisse-moi vous dire, ça serait vraiment, vraiment affreux d'avoir tous les membres de l'Église ici en avant essayant de prêcher. N'est-ce pas? Et souvent, j'ai vu tellement de personnes, des chrétiens qui ont manqué le coche parce qu'ils ont dit, « Oh, mais je veux que ma vie compte pour le Seigneur. Je veux faire quelque chose qui va vraiment, vraiment faire un impact pour l'éternité. Je veux travailler à l'Église. Je veux plus travailler dans le monde. » Ça serait affreux si tout le monde voulait travailler à l'Église. Qui va aller travailler avec les non-croyants? Qui va être la lumière de ce monde? Hein? Moi, je pense, j'espère que je ne vais pas les embarrasser, mais je pense à Sylvain et Daniel. Ils chauffent les camions. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait au moins 3 personnes que, depuis un couple de mois, qu'ils ont amené au Seigneur sur la route. 4 personnes. Comme, ils parlent au CB, ils parlaient, il faut que tu donnes un témoignage un jour, hein. Ils parlaient au CB et, il parlait au mais est-ce que tu veux juste vite? Non. Mais il parlait au CB de qu'est-ce qui s'est passé à l'église et quelqu'un d'autre demandait de est-ce que je peux parler avec vous autres? Si ça te dérange pas de parler de la foi, tu peux rejoindre la conversation et la personne a fini par accepter le Seigneur sur les ondes. Hein? Donc, laisse-moi vous dire, hein, c'est important que les gens soient dans le monde, le sel de la terre, la lumière de ce monde, n'est-ce pas? On a besoin, comme je dis hier soir dans notre cours, on a besoin des hommes d'affaires qui vont monter les commerces qui sont destinés à prospérer pour faire des millions de dollars pour l'Évangile de Jésus-Christ. On a besoin des personnes dans les politiques qui vont prendre les bonnes décisions, qui vont être les bons juges, qui vont juger avec équité et justice selon les principes de Dieu, n'est-ce pas? On ne devrait pas juste céder la place aux païens. On veut tous aller travailler à l'église, mais laissez-moi vous dire, on a besoin des gens qui travaillent à l'église, mais on a besoin des gens qui travaillent dans le monde aussi. Et c'est important, nous avons un appel. Et le Seigneur va nous révéler son appel, si on prend le temps de lui demander. La deuxième chose, c'est qu'il va nous montrer la richesse de son héritage. Vous avez un appel. Vous êtes appelé à être quelque chose et à faire quelque chose. C'est pourquoi on dit toujours, je suis tout ce que la Bible dit que je suis. Amen. Mais la deuxième chose qu'on dit, c'est que je possède tout ce que la Bible dit que je possède. Mais si vous ne savez pas qu'est-ce que vous possédez, ça ne vous aide pas. Donc, les richesses de son héritage. La Bible dit, oh, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que quand Dieu a souverainement élevé Jésus, que Dieu a fait en sorte que Jésus reçoit toutes les choses qui sont sur la terre, sous la terre et au-dessus de la terre, il a reçu toute autorité et toutes choses lui ont été données, qu'en réalité, il y a un homme, un membre de la race humaine qui est aussi Dieu, Jésus-Christ l'homme, qui est propriétaire de la terre entière. Pas juste la terre entière, il est propriétaire de l'univers entier. Et tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est sous la terre appartient à Jésus. Mais savez-vous quoi? Il a hérité toutes choses. Mais nous sommes héritiers de Dieu et quoi? Co-héritiers de Jésus-Christ. Je comprends pas. Ça marche pas avec ma pensée religieuse. Je suis hérité de Dieu. J'ai pas mérité quelque chose là. J'ai hérité quelque chose. Hein? Tu peux avoir un oncle riche, millionnaire, qui meurt et dans son testament, il a laissé tous ses biens à toi. Mais si tu connais pas cet oncle, quand il meurt, si personne ne te donne des nouvelles, tu peux vivre le restant de ta vie dans la pauvreté, tout en étant riche. Même chose, Jésus a fait une nouvelle alliance avec nous. Il y a un nouveau testament, n'est-ce pas? Il y a un nouveau testament, et dans le testament, notre nom est écrit, n'est-ce pas? Mais on a besoin d'avoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Il faut connaître son appel, il faut connaître aussi les richesses de son héritage dans les saints. Il y a certaines choses dans son héritage que je ne vais pas expérimenter avant d'aller au ciel. Ça, c'est vrai. Je ne vais pas marcher sur les rues d'or avant d'aller au ciel, probablement. Je n'ai pas vu une ville qui est prête à paver les rues en or ici sur la terre. Je ne pense pas que ça va arriver. Mais il y a des choses qui sont réservées, c'est sûr, pour nous. Même la Bible dit qu'ils sont protégés par la puissance de Dieu. Il y a certaines choses, mon héritage au ciel, j'ai des récompenses aux célestes qui m'attendent. N'est-ce pas merveilleux? Mais aussi, j'ai le droit ici sur la terre, comme citoyenne du ciel, comme un ambassadeur pour Jésus-Christ, que si j'ai besoin de quelque chose ici sur la terre pour faire la volonté de Dieu, ça m'appartient aussi en Jésus-Christ. J'ai un compte conjoint avec Jésus. C'est Jésus qui est le chef de l'Église. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous avons un compte conjoint, n'est-ce pas? Je sais que je vous donne un mal de tête spirituel là, ce matin. Hein? On ne devrait jamais dire, « Oh, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. » On ne sait jamais. On sait parce que le Seigneur nous a révélé que toutes choses sont en lui et toutes choses sont à nous aussi. Troisième chose, c'est l'infinie grandeur de sa puissance. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Ça, c'est mon appel. Je possède ce que la Bible dit que je possède. Ça, c'est mon héritage. Et je peux faire tout ce que la Bible dit que je peux faire. Comment? Par la puissance qui agit à moi. L'infinie grandeur de sa puissance. La Bible dit, « Ayant été enseveli par lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Jésus est ressuscité. Et vous savez que si on peut juste imaginer toutes les bombes atomiques qui existent sur la planète, est-ce que vous avez vu des films, des vidéos, des bombes atomiques? Hein, comme en Nouvelle-Mexique, la première explosion atomique. Est-ce que vous avez déjà vu des images de cela? Incroyable. J'ai lu une histoire de cela il n'y a pas longtemps, que même 20 000 plus loin, hein, la lumière était c'est comme c'est tellement éclatant. Il y avait une explosion avec une force incroyable. On voit qu'est-ce que juste deux bombes ont fait au Japon en 1945. Ça, c'est une puissance. Mais vous savez que la puissance de Dieu qui a été relâchée lors de la résurrection est infiniment au-delà de toutes ces puissances-là. Et que cette puissance, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous. Daniel a dansé hier soir à l'école biblique. On disait des choses, il dansait. Ça faisait du bien, c'est bon. Je veux juste que vous sachiez, hein, des fois on se sent tellement impuissant devant nos problèmes. Oh, qu'est-ce que je vais faire? On ne sait jamais. Mais si seulement on savait. J'ai un appel, j'ai un héritage limité et j'ai une puissance qui est infiniment au-delà de tout ce que je pourrais imaginer. Oh Seigneur, j'ai besoin de grandir dans cela. Oh moi, Pasteur Ken, j'ai besoin de grandir dans cela. J'ai goûté à la puissance de Dieu. J'ai vu des choses merveilleuses, mais je n'ai rien vu à date. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse voir plus. Qu'est-ce qui est en moi? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner place à cette révélation? On va finir avec ceci. Trois choses. Comment est-ce qu'on peut donner place à cette révélation? Numéro un, chercher la lumière dans sa parole. Ici, c'est le testament. Vous voulez savoir qu'est-ce que votre grand frère vous a laissé comme héritage? Lisez dans le testament et vous allez voir. C'est pourquoi la Bible dit, la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Trop de chrétiens passent trop de temps en se plaignant et en pleurant et en disant, « Oh Seigneur, je ne sais pas quoi faire! Oh! » Mais il ne prend même pas le temps de lire la parole, qu'est-ce que Dieu dit. Est-ce que vous voulez vraiment savoir? Ou est-ce que tu es content de pouvoir dire, « Oh, on ne sait pas, on ne sait jamais! » Ça me décharge de ma responsabilité quand je dis, « On ne sait jamais! » Je ne sais pas. Tu sais, Dieu est mystérieux. Je n'ai aucune idée qu'est-ce qu'il veut que je fasse. De toute façon, Dieu est souverain. Il va juste tout arranger. Non, il veut coopérer avec toi. Tu as besoin de prendre des décisions. Tu as besoin d'accepter son plan, sa volonté et de foncer avec le Seigneur Jésus. Amen. Donc, on ne peut pas juste dire, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait jamais. On devrait dire, oui, Seigneur, tu nous révèles ces choses. Et la première moyen que tu utilises pour me révéler mon appel, mon héritage et la puissance que j'ai à moi, c'est à travers ta parole, à travers les Écritures. C'est pourquoi, comme on a dit la semaine passée, fouillez, cherchez les endroits où ça parle de vous et croyez à ces choses, confessez ces choses. Amen. Deuxième moyen qu'on peut recevoir une révélation, c'est de demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Savez-vous que l'Esprit Saint connaît toutes choses? C'est un esprit de révélation. Qu'est-ce que Jésus a dit à propos de l'Esprit Saint en Jean 16? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce qu'il exagère ici? Il vous conduira. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est une personne digne de notre respect, digne de notre amour et avec qui on peut entretenir une véritable relation. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré les Écritures, habite en vous. Mais il dit ceci, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. C'est pourquoi on ne sait jamais, ça ne marche pas. Il va vous annoncer les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. OK? Est-ce que vous êtes prêts à danser? Regarde bien. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et qu'est-ce qui est à moi? Jésus a dit, tout ce que le Père a est à moi. Wouh! C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Avez-vous compris? Toutes choses sont à Jésus. Jésus a dit, le Père va prendre tout ce qui est à lui et tout ce qu'il m'a donné et il va vous annoncer, expliquer, enseigner ces choses. Tout est à moi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas nous enseigner? Absolument pas. Alléluia! 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 Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner place à l'Esprit Saint? On demande tout simplement, Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation. Enseigne-moi ta parole. Montre-moi dans les Écritures les choses qui sont écrites de moi. Et une autre chose qu'on peut faire, 1 Corinthiens 14, 2 dit, en effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Oui, il y a des choses qui sont des mystères aujourd'hui, mais les mystères sont destinés à nous être révélés. La façon que Dieu nous révèle ces mystères, c'est en priant dans l'esprit. Il y a combien d'années maintenant, 1989, le Québec, pour moi, c'était un mystère complet. Je ne connaissais pas le Québec. Je savais que ça existait. Moi, je savais qu'ils parlaient le français ici, je savais ça. Parce que quand j'étais à l'école secondaire, ma classe du français, on fait un voyage au Québec, mais moi, je ne suis pas allé. Ça ne m'intéressait pas, je n'étais même pas intéressé d'y aller. Intéressant, hein? Mais là, parce que moi, j'avais d'autres préoccupations. Pour moi, c'était l'histoire. Et j'avais d'autres choses, j'étais trop occupé pour penser à aller au Canada. Mais en 1989, en revenant de la France, on avait fait un mois de ministère là-bas, j'ai passé la balayeuse, vous connaissez bien l'histoire, dans mon bureau à la maison. Et qu'est-ce que je faisais? Je priais dans l'Esprit. Je prenais du temps, un temps de communion avec la personne de l'Esprit-Saint. Je priais dans l'Esprit, je priais en autre langue. Et tout d'un coup, ce qui était un mystère pour moi est devenu une révélation. La révélation que j'ai eue, c'est tout simplement, je veux que tu commences à prier pour le Québec et le peuple québécois. OK? Je m'en souviens, j'avais une carte mondiale sur mon mur, je suis allé voir Québec, là. Je commence à prier là. Je n'ai pas attendu, hein? 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Je commençais là, à prier. Je ne connaissais personne. Mais ce qui, pour moi, aujourd'hui, c'est ma vie. Hein? J'aime le Québec. Je suis plus Québécois que vous, hein? Parce que vous n'avez pas eu le choix. Vous êtes venu au monde au Québec, probablement, la plupart de vous. Mais moi, j'ai choisi de devenir ici, hein? De venir ici. Donc, mais vous voyez, c'était un mystère complet. Je ne savais pas, j'ignorais qu'il y avait une œuvre à faire au Québec et que la destinée de Dieu, mon appel, hein, l'appel que j'avais dans ma vie, c'était pour le Québec. Et que Dieu avait toutes les choses planifiées pour moi avant la fondation du monde pour que je sois ici, pasteur de l'Église fraternelle avec comblée. Mais heureusement, j'ai pris le temps de prier dans l'Esprit. Il y a des choses, là, comme je dis maintenant, mes enfants, hein, mon plus vieux avait 3 ans, quand Andrew est arrivé ici, il avait 3 ans, Michael avait 18 mois ou 15 mois, et mes autres enfants sont nés ici. Donc pour eux, c'est leur vie. Mais en 1989, c'était un mystère. Combien d'autres choses que le Seigneur a planifiées pour nous sont encore un mystère aujourd'hui? Et que si on ne prend pas le temps de prier dans l'Esprit, on ne saura jamais. Hein, il y a des choses, peut-être il y a des commerces que le Seigneur veut que vous commenciez. C'est un mystère aujourd'hui. Peut-être il y a des personnes que vous êtes supposées d'entrer en relation avec ou de... Je ne sais pas, il y a des choses que j'ignore et je ne sais pas, mais Dieu sait et il veut nous révéler ces choses à travers l'Esprit. Donc la troisième chose qu'on peut faire pour donner place à la révélation, c'est d'honorer les relations. Honorer les relations que Dieu a placées dans nos vies. Vous savez, j'ai entendu un prédicateur parler de ceci il y a juste cette semaine. Hein. J'ai écouté, parce que moi, quand je fais les exercices au gymnase, j'écoute souvent les CD, les prédications. Comme ça, je m'entraîne spirituellement et physiquement en même temps. Mais lui, il parlait de ça et ça m'a frappé tellement fort. Et qu'un jour, le Seigneur lui a dit que, tu sais, il y a des choses que je veux te révéler. Des choses dans mon plan que je veux te révéler. Il y a des vérités spirituelles que tu as besoin de connaître, que toi, tu ne vas jamais connaître à moins de les recevoir de la part d'une autre personne que j'ai placée dans ta vie. Avez-vous suivi cela? C'est-à-dire qu'il y a certaines choses. Dieu est tout-puissant. Dieu a toute connaissance. Jésus avait l'Esprit Saint à mes yeux, mais moi j'ai un mesure de l'Esprit Saint. Vous avez un mesure de l'Esprit Saint. Il y a certaines choses, il y a certaines révélations que Dieu va donner à Daniel qu'il ne va peut-être pas forcément me donner. Hein? Et si Dieu m'appelle à être en relation avec Daniel, c'est à travers notre relation que ces choses vont venir à la surface et devenir une révélation pour moi. Je vais apprendre ces choses de lui. Amen. Hein? Il y a certaines choses comme moi, en tant que pasteur, il y a certaines révélations de la parole que le Seigneur me donne. Et si vous êtes en relation avec moi, et si vous venez à l'église et vous écoutez, et vous marchez dans l'amour, vous n'êtes pas fâché avec moi, parce que si vous êtes fâché avec moi, laissez-moi vous dire, même si vous êtes là et vous écoutez, vous me regardez, vous ne recevez pas. Souvent, quand les gens disent, « Oh, mais je ne me sens pas nourri », je check toujours, est-ce que vous êtes offensé à quelque part? Souvent, c'est le cas. Quand on est fâché avec une personne, on peut être poli à sa face, mais on ne reçoit plus rien. Mais vois-tu, si on est en relation avec les hommes et les femmes que Dieu a amenés dans notre vie et on honore ces personnes, la révélation qui est dans leur vie va être communiquée à nous. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi moi j'ai besoin d'être en relation avec cette... Moi j'ai des hommes de Dieu dans ma vie. J'ai des autorités spirituelles. Hein? Et à chaque fois, il y a des personnes que je connais bien, que j'ai littéralement, j'ai demandé à ces gens de veiller sur ma vie. Et je leur ai donné la permission d'être les leaders spirituels de ma vie. Et s'ils voyaient des choses que j'avais besoin de changer, de corriger, qu'ils ont le droit et je veux qu'ils me disent. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Et vois-tu, il y a tellement, je peux donner tellement d'exemples que si je n'ai pas eu ces hommes-là qui auraient parlé dans ma vie, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Amen? Mais c'est la même chose que ça soit avec mon épouse. Laisse-moi te dire que je suis en relation avec mon épouse. On a une relation qui est proche et intime dans le sens qu'on se connaît. On se connaît spirituellement aussi. Et elle a souvent des révélations dont j'ai besoin. Elle voit les choses, elle comprend les choses que je ne comprends pas. Mais quand elle dit, ça devient une révélation pour moi. Mais si je serais en chicane avec elle, je ne recevrais pas cette onction, je ne recevrais pas cette révélation. Amen? Donc là, on voit l'importance d'honorer les gens dans notre vie. Et des fois, les gens, ils ont expérimenté les choses qu'on n'a pas expérimentées, on a besoin de leur expérience. C'est comme ce prédicateur qui partageait cela aujourd'hui, cette semaine, j'ai écouté ça, il disait que quand il avait 12 ans, il avait un cheval dans un petit village où il habitait. Il distribuait les journaux à 12 ans. Il avait un cheval qui lui faisait du trouble des fois. Il s'échappait à l'occasion. Une fois, il s'est échappé pour 2 jours. Et il ne trouvait pas. Et finalement, quelqu'un a appelé. On a trouvé ton cheval. Il est allé chercher son cheval. Mais pour le ramener à la maison, ils sont arrivés à un pont. Et dès qu'il est arrivé au pont, il a breaké. Hein, il a freiné. Il ne voulait pas traverser le pont. Il a essayé avec toute sa force, viens-t'en, on va traverser le pont. Il ne voulait pas. Finalement, il avait besoin d'aller chercher quelques adultes et ils ont forcé le cheval de traverser. Je ne sais pas, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, il était en Colorado en train de faire un petit ride avec des chevaux tout en ligne. Et il parlait avec le monsieur qui dirigeait le groupe. C'était un vieux cowboy avec beaucoup d'expérience avec des chevaux. Il disait, tu sais quoi, moi quand j'avais 12 ans, j'avais un cheval qui s'est échappé et je voulais traverser un pont. Avec lui, il a carrément refusé de traverser le pont. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Le gars a dit, il a craché son tabac. Je ne sais pas, personne ne sait. Non, mais sûrement, il y a une raison pour ça. Est-ce qu'il était traumatisé quand il était tout petit ou quoi? Personne ne sait. Mais est-ce que tu as jamais eu cette expérience? Tu as vu une chose de même avec vos chevaux? Ah oui, ça arrive des fois. Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'est-ce qu'on fait? On trouve un vieux cheval qui n'a pas peur de traverser les ponts. Et on va l'attacher à l'autre cheval. Et puis il va suivre. Et quand il voit que c'est rien de grave de traverser le pont, après ça, on n'a plus de trouble avec. C'est quoi le moral de l'histoire? C'est qu'on a besoin de s'attacher à un vieux cheval des fois. Quelqu'un qui a déjà traversé les ponts spirituels. Quelqu'un qui a déjà eu de l'expérience. Quelqu'un qui a déjà connu les choses de l'esprit et de Dieu et de la parole que nous ne connaissons pas. Et c'est quand nous sommes en relation avec eux que nous allons pouvoir recevoir la révélation dont nous avons besoin. Et nous allons pouvoir traverser le pont ensemble. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever debout. J'ai 3 minutes avant midi.